cours de philosophie du vivant par le père Philippe Assageda le 12 avril 1989.
Il faut, dans les différentes matières que nous avons vues, reprendre, réutiliser nos concepts. Alors, la dernière fois, nous avions regardé ces textes d'Aristote, pas tous, que saint Thomas lui-même reprend. C'est un point très particulier, très intéressant. Il y a deux points qui sont intéressants sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Quand Aristote reprend la doctrine, quand saint Thomas reprend la doctrine d'Aristote, ce point de vue de la génération et le point de vue des corps célestes. Toutes les batailles sont là-dessus. En disant, la physique d'Aristote est périmée et saint Thomas la prend, donc tout est périmé dans saint Thomas. Sa théorie de la procréation ne peut pas être gardé, donc là encore, c'est périmé. Alors, ça touche toute la question des rapports entre la science et la philosophie. Il est évident que la science moderne, quand il s'agit de la physique et de la cosmologie, ne peut pas garder la vision d'Aristote. Puisque pour Aristote, il y a des corps célestes qui impliquent une matière incorruptible. Alors, je ne regarde pas cette question-là, mais il faut savoir qu'elle existe. Il faut s'imposer de temps en temps, petit à petit, entrer là-dedans. Je regarde ici la question d'Aristote par rapport à la procréation. Sa vision est une vision de philosophie du vivant. La philosophie du vivant d'Aristote, sûrement, demande d'être purifiée. C'est « je crois » qu'elle réclame d'être vue dans une perspective plus de philosophie première. Voyez l'analogie entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme est toujours prise dans une perspective de la philosophie de la nature, matière et forme. Alors qu'on devrait la regarder beaucoup plus d'un point de vue métaphysique, de la métaphysique de l'acte et de la puissance. Et je crois que là, on pourrait alors très bien purifier cette vision d'Aristote et montrer que la vision d'Aristote ne s'oppose absolument pas à la biologie contemporaine. Je vais m'expliquer un tout petit peu, sans entrer à fond dedans, parce que ce serait tout un problème critique. Mais il faut garder ce problème-là et y revenir. Pour Aristote, la philosophie du vivant est incluse dans une philosophie de la nature. Alors que je crois que pour nous, il faudrait que la philosophie du vivant soit poussée beaucoup plus dans une perspective de philosophie du vivant qui a une certaine autonomie et pour cela soit vue beaucoup plus dans une perspective de philosophie première. C'est-à-dire dans une perspective de philosophie, de l'être en acte et de l'être en puissance. l'analogie n'est pas du tout la même. Et l'analogie demande, par le fait même d'être purifié. On verrait beaucoup plus le rôle de l'homme dans la perspective de l'être en acte et la philosophie du rôle de la femme dans une perspective de l'être en puissance. L'être en puissance peut aller très loin, puisque ce qu'on disait ce matin, l'amour, l'être en puissance par rapport au bien. Et l'amour est actif. Et c'est là où je crois qu'on peut pousser l'analogie beaucoup plus loin et comprendre que l'être en puissance ne veut pas dire en puissance comme la matière, comme la pure matière. Mais l'être en puissance, c'est les dispositions. C'est l'entelecheia comparativement à l'energeia. Et donc impliquant des opérations vitales. La science biologique ne peut regarder que les dispositions. Et les dispositions pour la science biologique restent quelque chose qui est en acte. Ce qui est en acte au niveau de la science biologique peut être considéré en puissance du côté métaphysique. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus d'opposition. Alors il faut y réfléchir à ça. Et les dispositions, point de vue scientifique, sont considérées comme en acte. Et du côté métaphysique, peuvent être considérées comme en puissance. Donc il ne faut pas se batailler au niveau des expressions. Mais il faut comprendre que ce qui est considéré du côté biologique comme disposition et donc comme en acte peuvent être considérés au niveau métaphysique comme en puissance relativement à l'acte. Une fois qu'on a vu ça, il n'y a plus d'opposition. La perspective d'Aristote est une perspective que, dans toute coopération, pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait un concours de ce qui est en puissance avec ce qui est en acte. Et l'unité ne peut se faire qu'à ce niveau-là. Or, dans l'acte de procréation, il y a un concours de l'homme et de la femme. Ce concours implique une unité, puisqu'il y a un fruit unique, il y a un fruit substantiel. Il faut donc que le concours implique puissance et acte. Vu du côté descriptif, les deux sont en acte. Au niveau de la disposition. Vu du côté métaphysique, cette disposition, l'une est considérée comme relative à l'autre, et parce qu'elle est considérée comme relative à l'autre, elle est en puissance. Et l'autre, au contraire, est ce qui détermine. Donc, est acte. Vous voyez, c'est un regard différent. Et il faut considérer que ce regard différent peut très bien nous dire que d'un côté, l'être est en puissance vis-à-vis de l'être qui est en acte. Alors, Pour préciser cela, il faudrait, je ne le fais pas, il faudrait tout simplement regarder ce que le savant biologiste dit et voir que ce qu'il dit n'est pas du tout en contradiction avec un regard métaphysique. J'espère que vous voyez. Si vous ne voyez pas ça, notez ce que vous ne voyez pas pour que ce soit net au plan critique. En comprenant que la description du biologiste, puisqu'il y a concours, que la description du biologiste implique nécessairement un concours du côté de l'action virile et de l'action de la femme. Il y a une coopération entre les deux. Et du côté descriptif, tous les deux sont actifs. C'est bien évident. Et que du côté métaphysique, on peut distinguer un ordre entre ces deux actions. Et que cet ordre permet de dire que l'un est être en acte et l'autre l'être en puissance. Et ça permet de mieux comprendre l'unité substantielle de cette coopération qui est constatée, qu'on constate puisqu'il y a un seul fruit. Donc, il y a une unité substantielle. Et cette unité substantielle ne peut s'expliquer métaphysiquement qu'en comprenant que ce qui est en acte et que ce qui est en puissance coopère en vue de cette unité. Je crois que c'est ça qu'on doit affirmer, qu'on doit essayer de comprendre. Et que si on fait l'étude, on voit qu'il n'y a aucune espèce d'opposition. C'est qu'évidemment, la science biologique ne présuppose pas la métaphysique. Mais la philosophie du vivant présuppose la métaphysique. C'est là la différence. Pas de philosophie du vivant sans métaphysique. Une science biologique peut exister sans la métaphysique. Donc c'est la question des rapports entre la philosophie du vivant et la science biologique. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a tout simplement des niveaux différents d'intelligibilité. C'est que la science décrit et cherche des lois et que la philosophie, elle, induit et cherche la saisie des principes. Donc, on est à deux niveaux différents d'intelligibilité. L'intelligibilité scientifique reste au niveau descriptif. L'intelligibilité philosophique saisit les principes propres. Je ne dis pas plus, hein, mais c'est pour vous donner l'orientation et la piste. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire vous-même l'étude. Et cette étude est facile à faire. Elle peut nous poser des questions. Alors quand elle vous pose des questions, vous écrivez pourquoi il y a des questions. Et comment vous voyez l'opposition. Et alors, à ce moment-là, vous écrivez votre question. Et en écrivant votre question, vous appelez une réponse. Mais tant qu'on ne sait pas poser la question, on ne comprend pas la réponse. C'est pour ça que j'aime que ce soit vous-même qui vous posez ces questions. Si je vous donne la solution, vous prendrez la solution comme ça. Et vous ne verrez pas le problème. Alors il faut voir le problème. C'est ça le propre, vous voyez, du travail philosophique par rapport à la science. Et que là, il y a un nœud qui s'est posé avec beaucoup d'acuité et qui est intéressant. Parce qu'on voit tout de suite le sommet de la recherche biologique et le sommet de la recherche scientifique, philosophique, par rapport à la philosophie du vivant. Alors, je vous mets sur la piste. Réfléchissez vous-même, réfléchissez avec vos parrains. Puis, s'il y a des questions qui demeurent, vous me les mettrez. Et on pourra les traiter ensemble. Parce que je crois que ça vaut la peine. Mais j'aimerais que la discussion vienne de vous. Vous voyez ? Et que vous-même, vous puissiez réfléchir sur ce problème. Alors, je passe tout de suite maintenant au niveau de la vie sensible. Pourquoi c'est un nouveau degré de vie au plan philosophique? Vous voyez, là, on a affaire beaucoup plus avec la psychologie et avec aussi la science biologique quand elle étudie les sensations. Il faut avoir contact avec des bons opticiens. J'en connais un qui est merveilleux. Il est valaisan. Et c'est vraiment, c'est le seul que j'ai vu jusque maintenant qui aime son métier d'une façon telle qu'il veut la philosophie de l'œil. Ce serait très intéressant si on avait le temps, s'il pouvait venir, parce qu'il est très pris, de venir nous exposer ce que lui, en savant, regarde l'œil. C'est déjà très intéressant, ça, c'est facile à voir. Les schèmes sur l'œil, schèmes biologiques sur l'œil, la manière dont un savant regarde l'œil. Vous savez que pour certains savants, regarder l'œil suffit à dire exactement si vous êtes en bonne santé. Ils creusent les taches qui sont dans l'œil. Et vous voyez ici, tout de suite, évidemment, en petit miroir, toute la santé de l'homme. C'est vrai, et pas entièrement vrai. La partie reflète le tout. Or, au niveau biologique, quelle est la partie la plus actuelle, la plus parfaite? C'est l'œil. On verra ça, c'est intéressant. Et alors, premièrement, on passe à un degré de vie nouveau. Pourquoi? Parce que les opérations sensibles de connaissance sensible, la vision, le toucher, les deux extrêmes, impliquent une indépendance à l'égard du monde physique qui est beaucoup plus grande que la vie végétative. La vie végétative demeure substantiellement dépendante de la vie physique. Tandis que notre vie sensible, notre connaissance sensible, notre vie passionnelle, les passions, ont une certaine indépendance par rapport au monde physique. Certaine indépendance. ne sont pas liés substantiellement au monde physique. Alors, comment va-t-on constater ça? C'est important de voir qu'il y a là une indépendance plus grande, donc une immanence plus grande. C'est toujours par l'immanence que vous découvrez les degrés de vie. La vie sensible, de connaissance sensible, est plus indépendante du monde physique que la vie végétative. Pourquoi ? Parce que nous entrons avec la connaissance sensible dans le domaine de la connaissance. Et le domaine de la connaissance développe tout de suite une immanence beaucoup plus grande grâce à ce qu'on va appeler l'intentionnalité. La connaissance sensible me met en présence un domaine nouveau que la vie végétative connaissait, mais d'une façon beaucoup moins parfaite. Quand je connais, je suis en dépendance du monde sensible, mais j'assimile ce monde sensible d'une manière nouvelle, qui n'est plus physique, qui est intentionnelle. Tandis que vous ne pouvez pas, je vous ai déjà dit, prendre un petit déjeuner intentionnel. Quand vous passez devant une boulangerie, le matin, ce serait du reste très économique. On ferait une boulangerie le matin. Il suffirait de passer 5 minutes devant la boulangerie pour prendre son petit déjeuner intentionnel. Alors plus de beurre, plus de confiture, il n'y aurait plus que l'odeur du petit pain frais. Je vous dirais, c'est merveilleux. J'ai pris mon petit déjeuner intentionnellement. Je crois que vous ne vivriez pas très longtemps comme ça. Vous verriez à ce moment-là toute la différence qui existe entre prendre son petit déjeuner, c'est-à-dire vous nourrir d'une manière biologique, d'une manière selon la vie végétative et les normes de la vie végétative, et les prendre intentionnellement selon les normes de la sensation. Vous pouvez sentir l'odeur du petit pain. Vous pouvez voir un petit pain frais. C'est pas la même chose que de manger. Vous pouvez le goûter. C'est pas la même chose que de manger. Donc là, vous saisissez qu'on passe d'un domaine très concret à un autre domaine qui n'est plus du tout du même domaine concret. Et c'est pour ça que les Arabes aristotéliciens, comme Avicenne, disait, la connaissance sensible est abstraite. J'aime beaucoup cette expression. Elle n'a pas été gardée par saint Thomas. Ça ne dit jamais que la connaissance sensible est abstraite. Je peux le dire. La connaissance sensible est abstraite par rapport à la vie végétative. Qu'est-ce que vous abstrayez dans la connaissance sensible? Qu'est-ce que vous abstrayez? Parce que la connaissance sensible est d'une certaine manière concrète, et d'une manière autre, elle est abstraite. Vous abstrayez tout le domaine de la substance. La substance est au-delà du domaine sensible. Vous ne pouvez pas sentir la substance. Qu'est-ce que vous sentez? Les qualités sensibles, les sensibles propres, les sensibles communs. Et la substance échappe complètement. Alors, vous comprenez à ce moment-là comment tout le domaine de la connaissance n'atteint pas la substance. Tandis que ma vie végétative atteint la substance. D'une manière végétative, hein, pas d'une manière philosophique. Vous avez un sens de la substance au niveau aliment qui est très précieux. Parce que vous voyez tout de suite les aliments substantiels et les aliments non substantiels. Ça me nourrit. Tiens, ça ne me nourrit pas. Ça m'amuse. C'est très agréable au palais. Mais c'est pas substantiel du tout. Vous voyez, vous faites une petite distinction qui est importante dans ma vie, qui est même capitale. Ce qui vous nourrit et ce qui vous amuse. Par rapport à la vie végétative, vous voyez, la vie sensible va nous faire entrer dans le jeu. Le jeu, pas le jeu. J'ai eu. On va s'amuser. L'art va pouvoir intervenir. Oh, merveille. Je peux faire des repas artistiques. Je peux faire des représentations magnifiques, étonnantes, qui plaît à l'œil, qui plaît à l'odorat, qui plaît au goût. Ah, ça, c'est pas la vie végétative tout court. C'est la vie végétative enveloppée de ma vie sensible. Et enveloppée de ma vie sensible au service de ma vie intellectuelle. L'art intervient. Là encore, je vois la différence entre ma vie végétative et ma vie sensible. Grâce à la vie sensible, l'art peut intervenir. Je peux distinguer le cru et le cuit. C'est pas ma vie végétative qui fait ça tout de suite. Tandis que là, c'est ma vie sensible et c'est l'art. Vous pouvez cuire des bananes, ce que ne fera pas le singe. Tandis que les bananes, il les prend tout de suite. Et vous pouvez faire ça pour tout, hein. Oui, il faut dire, mon estomac ne supporte que l'eau chaude. Dans l'eau chaude, je peux mettre certains ingrédients qui feront que cette eau chaude aura une couleur café. C'est toujours de l'eau chaude. Bien chocolat. Bien le lait. C'est très curieux. Hein. Et tous les jours, vous faites ça, mais vous faites en passant ça. Sans tenir compte, le petit déjeuner fait la différence entre la vie végétative pure et simple et la vie sensible. Vous n'êtes pas indifférent à ça. Bouchez-vous le nez, fermez les yeux, pas de distinction entre le thé et le café. Disent les psychologues. Vous voyez comme c'est abstrait la psychologie. Première distinction de la psychologie. Tous les sensibles propres disparaissent. C'est pour ça que c'est pas philosophique, la psychologie. Dumas dit ça dans son ouvrage psychologique, qui est fondamental. Parce que là, il est naïf. Les psychologues d'aujourd'hui ne diraient plus. Parce qu'ils savent qu'en disant ça, ils montrent le caractère abstrait de leur psychologie. La psychologie, c'est très abstrait. Tandis que la philosophie du vivant ne l'est pas. Elle reconnaît que la vie sensible est une certaine abstraction comparativement à la vie végétative. Mais la philosophie de la connaissance sensible est beaucoup moins abstraite que la psychologie. Donc je crois que là, nous pouvons tous saisir qu'on passe d'un degré de vie substantiel, un degré de vie non substantiel. Ce qui permet de comprendre tout de suite que ce degré de vie non substantiel va être comme un jeu de relations. Quand la substance n'est pas présente, la relation dépasse tout. Et la relation s'impose. Et la connaissance sensible, c'est un jeu de relations. La connaissance passionnelle, c'est un jeu de relations. C'est extraordinaire, ça, quand je saisis un peu ça. Je vois tout de suite la différence, hein, au point de vue philosophique, entre ma vie végétative et ma vie sensible. Donc, première distinction, je quitte la substance, je m'abstrais de la substance, et je reste dans l'ordre des qualités, ou dans l'ordre de la quantité. Et je vois que tout ce domaine sensible va permettre les interventions de l'art, que la vie végétative comme telle ne permet pas directement. Ma vie végétative est déterminée autonome. Ma vie sensible implique des indéterminations qui me permettront tout un jeu de relations. Et donc, l'art pourrait intervenir. Alors, une fois que j'ai compris la distinction entre les deux, je peux maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette vie sensible qui m'est donnée en premier lieu dans la connaissance sensible. Je détermine cette vie sensible par la connaissance sensible. Et je verrai ensuite ma vie sensible, affective, passionnelle. Ma vie sensible, c'est en premier lieu le toucher. C'est le sens le plus commun. C'est le sens le plus fondamental. Toute ma vie sensible est fondée sur le toucher. Et toute ma vie sensible va s'épanouir jusqu'à la vision. Les deux extrêmes de ma vie sensible, c'est d'une part le toucher, d'autre part la vision. Et je vois que c'est tout à fait différent. Il faut parler à des aveugles pour bien comprendre ça. Les aveugles ont un toucher extraordinairement développé. Tandis que l'homme qui voit normalement est beaucoup plus libre du toucher. C'est une petite expérience qu'on fait tous les soirs ou toutes les nuits. C'est évidemment, il y a l'électricité aujourd'hui. Ça supprime énormément le toucher. Mais quand vous êtes dans une pièce, c'est quand on voyage, on s'aperçoit de ça. Dans une pièce que vous ne connaissez pas, vous êtes entré le soir avec l'électricité. On vous a montré toute la pièce. Tout ce qu'il y avait dans la pièce. Puis vous vous endormez parce que vous êtes très fatigué. Et vous vous réveillez brusquement dans la nuit. Et l'électricité est loin. Parce que c'est juste à votre portée. C'est idiot. En dessous de votre oreiller, vous appuyez. Ça, c'est la vie moderne. Et vous voyez comme la vie moderne supprime l'habileté du toucher. C'est tout de suite la vue. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a qu'une petite bougie à l'autre extrémité de la chambre. Hein? À l'autre extrémité de la chambre. Là où il y a les allumettes. Vous n'avez pas voulu le mettre tout près parce que vous êtes dit, si je me réveille, je vais allumer serai à moitié éveillé. Ça va tomber, c'est mon oreiller qui va flamber à la place de la bouche. Ça peut arriver. Et si vous avez fait une fois votre expérience là-dessus, faites attention. Oh non, loin, loin, loin. Alors, vous êtes livré au toucher. Vos doigts de pied. Est-ce qu'ils peuvent ressentir certaines petites secousses? Parce que vous, c'est terrain lisse, vous ne ressentez rien, mais s'il y a des obstacles, ça peut arriver. Et vos doigts de pied sont particulièrement sensibles. Parce que vous touchez une chaise pointue, n'est-ce pas, qui vous fait mal, ou ainsi de suite. Et vous avez le toucher, vous êtes comme un aveugle. Et vous tournez dans la chambre 2-3 fois. Vous avez complètement perdu le sens. Et vous pouvez arriver comme ça à perdre beaucoup de temps avant de retrouver la bougie. On a tous fait cette expérience. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Mais si vous l'avez faite, vous apercevez tout de suite la différence entre l'orientation du toucher, qui n'est pas le sens de l'orientation, et la vision qui est le sens de l'orientation. Les gens qui ont une vision très développée ont un sens de l'orientation. Les gens qui n'ont pas du tout la vision développée et qui n'ont que le toucher n'ont pas l'orientation. La taupe. L'orientation de la taupe. Et quand vous êtes dans une chambre obscure, sans aucune possibilité, vous êtes une taupe. Vous apercevez ce que c'est. Et vous mettez du temps avant de vous orienter de nouveau. Évidemment, quand vous arrivez à retrouver le bouton électrique, oh, la taupe sort. Et alors à ce moment-là, ou la chauve-souris, parce que la chauve-souris, c'est aussi un radar très particulier, les chauves-souris. C'est pas très orienté. Les oiseaux de nuit, ce sont des radars qui leur permettent de s'orienter. Et nous n'avons pas de radar, parce que nous avons les yeux. La nature nous a donné quelque chose de plus que le radar, les yeux. Mais le toucher, c'est le sens fondamental. Fondamental. C'est le sens de l'animal. C'est le sens de la nourriture. C'est pour ça qu'aucune vie végétative ne peut ne pas avoir le toucher. Tandis que la vie végétative, la vie animale, je veux dire, c'est-à-dire la vie sensible ne peut pas se séparer du toucher. C'est dans ce sens-là que je dis que le toucher est quelque chose de fondamental. Et c'est le sens le plus concret, le moins abstrait. C'est le sens de la réalité individuelle. Toute notre vie végétative, animale, se fonde sur le toucher. Sens de la vie, toucher. Alors, qu'est-ce qu'on touche en premier lieu? Enfin, vous avez vu les deux extrêmes, hein? Et que dès que la vision est là, votre toucher est terriblement relativisé. Et quand la vision n'est pas là, votre toucher se développe étonnamment. Et c'est pour ça qu'un aveugle de naissance a un toucher très développé. Alors vous pouvez faire cette petite expérience encore une fois. Quand vous vous réveillez la nuit dans une chambre que vous ne connaissez absolument pas, vous voyez combien vous êtes dépendant du toucher. Et combien le toucher est quelque chose très très important. Et dans la vie courante, surtout dans notre monde, qui est un monde qui développe la vision et pas du tout toucher, tout est fait pour la vision. Petit à petit, vous perdez le sens du toucher. Il faut le retrouver. Parce que quand on perd le sens du toucher, on perd le sens réaliste. Le réalisme repose sur le toucher. Et les gens qui ont très fort le sens du toucher gardent toujours le réalisme. Les deux choses se tiennent. Qu'est-ce qui est capital dans le toucher ? Prenez les expériences les plus simples de toucher. Et encore une fois, prenez-les durant la nuit. Il ne faut pas vous réveiller exprès pour faire cette expérience. Mais si vous vous réveillez la nuit, après avoir une pensée pieuse, il y a une pensée philosophique. Une pensée philosophique, c'est dire, tiens, j'avais jamais réalisé combien je suis dépendant du toucher. Le toucher est une connaissance très, très dépendante. Parce que vous touchez ce qui vous est le plus proche. Même si vous avez le bras très long, la nuit, c'est jamais très long. Ça vous permet, du reste, sympa. Parce que là, les bras, c'est merveilleux, du reste, que les bras permettent de ne pas vous cogner la tête. De ne pas vous faire mal aux pieds. Comme les bras sont une défense et que le toucher est le plus sensible dans la main. C'est là où le sensible est. Et le toucher de la main est une défense. Oui. Votre milieu immédiat, il est défini par la longueur de vos bras. C'est le milieu le plus immédiat. Parce que déjà, quand c'est au-delà, vous n'arrivez pas. Mais comme c'est curieux, hein, et c'est le toucher le plus délicat, c'est la main, c'est la longueur. J'ai vraiment par là le milieu le plus immédiat, celui que je peux toucher immédiatement. Et ça définit le milieu, votre milieu. Quand vous touchez quelque chose, vous analysez votre toucher. Qu'est-ce qui détermine le sens du toucher ? Qu'est-ce qu'il détermine ? En premier lieu, quelle est la sensation la plus caractéristique du toucher ? Vous devez essayer de découvrir ça. Il ne faut pas d'induction. Hein. C'est une expérience immédiate. Je crois que c'est le chaud et le froid. Je crois que c'est ça qui est la détermination fondamentale du toucher. Le chaud et le froid. Vous touchez. Vous n'avez qu'à toucher le feu. Vous verrez. Quelle détermination. Le feu. Ne faites pas l'expérience, hein. Mais le gosse fait l'expérience. Il met sa main dans le feu. Ça brûle. Donc c'est chaud. Instinctivement, quand vous êtes dans un pays très chaud, où le sable est brûlé par le soleil, vous touchez le sable. Et vous voyez que le sable, vos pieds touchent le sable. C'est quelque chose de brûlant. Au contraire, quand vous êtes dans une chambre très froide, la chambre froide, vous apercevez que faut pas y rester trop longtemps. Oui. vivant, il y a la chaleur. Une chaleur modérée. Le sens du toucher me donne le sens de l'harmonie. La première harmonie. Et le sens du toucher me fait comprendre que ce qui est contraire à la vie, c'est le froid. La vie ne se développe pas dans le froid. Si vous avez trop froid, vous vous réveillez. La nuit, on est réveillé par le froid. On peut être réveillé aussi par le chaud excessif. C'est pas du tout la même façon, pas du tout la même impression d'être réveillé par le froid, par le chaud. La connexion qui existe entre le toucher et le vivant. Le vivant a besoin d'un milieu. Ce milieu est déterminé par mes bras et mes pieds. Ordinairement, les bras vont plus loin que les pieds. Ordinairement, je sais bien qu'il peut y avoir, j'allais dire, des êtres tout à fait particuliers dont les pieds vont plus loin. Alors, il s'avance avec un pied toujours devant, disons, pour montrer. Mais c'est très curieux, la défense.